Nommer enfin ces artistes et les faire connaître, c'est ce qu'ont fait les Cahiers de l'Art Brut, sans ambiguïté ni terrorisme. Mais pourquoi ne pas en être resté là? Pourquoi n'avoir pas laissé ces œuvres suivre leur chemin, s'intégrer aux grandes collections comme elles les méritaient? En brûlant les étapes, il les a comme définitivement poussées sur une voie de garage. Bien au contraire, il est à l'origine d'un mouvement qui n'est pas prêt de s'arrêter. C'était une vraie locomotive, lancée à toute vapeur. Il a formé une génération d'artistes, de critiques, de conservateurs. Il a entraîné derrière lui des wagons pleins d'amateurs, de connaisseurs, de regardeurs, d'émus et même de reproducteurs. Il a su gagner la course sans rien détruire de la machine, sans perdre ni pièce ni rouage, la perfectionnant, l'affinant, la polissant, qu'elle brille d'un éclat qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Et c'est ainsi qu'il est resté sur place. Absolument pas. Ces artistes l'ont créé sans rien connaître de ceux qui les ont précédés, dans une totale acculturation. Il a simplement voulu les honorer en leur consacrant un musée. Quel mal y a-t-il à cela? Quel mal? Quelques plis d'un drapé. Quel drapé? Quel pli? De quoi parles-tu? D'acculturation. Car tu penses, comme Malraux, qu'un pli chez Aloïse ne vient pas après ceux de Poussin ou du Bernin. Mais c'est pas fait contre ceux de Picasso ou pour combler l'absence de pli chez Matisse. Un pli chez Aloïse n'est que le pli pris de son enfermement et de sa prison. Oui, Malraux, c'est voix du silence. Mais ne crois pas que l'asile soit étanche. Il y souffle le vent des grands événements. Il est baigné des vagues que font les bouleversements sociaux, artistiques, politiques. Même si, au bout du compte, ce n'est qu'un petit clapotis, dans cet univers clos et saturé de répétitions, le moindre mouvement y produit de notables effets. Je t'entends. Ces artistes, auxquels on a dénié la faculté d'évoluer, qu'on a vu toujours égaux à eux-mêmes, toujours dans le même registre, ont su s'abstraire des murs de leur prison, n'est-ce pas? Non, ils ont peint leur prison, soit prison mentale ou physique, mais ils ont simplement exprimé ce qu'ils voyaient et ressentaient, qui ne bougeait qu'à peine, qui semblait ne jamais devoir changer. Ceci à l'intérieur du langage universel de la peinture, avec ses mouvements, ses flux et reflux contemporains dont ils étaient forcément traversés, sans jamais cesser d'être humains. Et c'est bien cela qui est insupportable à certains, comme l'œuvre de sable est à d'autres. Il a fait une œuvre dans la belle langue dont il avait l'usage, marquée par la prison, car nourrie d'horreur, pleine de crimes et de corps menés absurdement, pleine d'une brutale sexualité. Qui oserait dire aujourd'hui de ses écrits qu'ils sont brutes littérature? Et pourtant, qui honnêtement se suscite aujourd'hui des écoles, des mouvements et des genres? Je me nourris de tel obscur renaissant, de léger de Pollock et de l'or pigeon aussi, et du dessin des petites herbes qui poussent entre les pavés de ma cour. C'est la démarche d'un qui, ah, je te vois emprunter sceptique et petite manie d'écriture, admettons. Mais Sade côtoie Chateaubriand dans la collection de la Pléiade. Et l'art brut qui n'avait rien à conquérir sur des grands génies des siècles passés, mais tout sur le monde ordinaire de l'asile, qui s'est construit à partir d'une culture pleine d'imagerie populaire, de publicité, d'étiquettes, de dessins de magazines, de monnaie et de tant d'autres choses banales que chacun de ces artistes a magnifié et rehaussé de ses propres préoccupations et resté isolé. Ce n'est ni une anticulture, ni une absence de culture, mais une autre culture qui s'exprime là, même si ce n'est pas la culture universitaire et qu'elle rencontre souvent le mépris. C'est une pratique née avec la modernité et avec l'abstraction, avec le renouveau des arts. Dans la marche, certes, des grandes figures du XXe siècle, mais parfois les aspirant et les anticipant. Avoue que cela ne ressemble à rien d'autre. Mais si, tu te refuses de le voir, et cela rend plus confortable encore ton sentiment d'être singulier, original, averti, ton désir de faire partie des rares qui. Moi, au contraire, je revendique pour ces artistes qu'on les regarde avec les lunettes de l'évidence, bien sûr, mais aussi avec celles du vraisemblable et du possible. Leur spécificité n'est pas de faire l'envers, ou le contraire de tout ce qu'a fait l'art et la culture. Leur spécificité est d'être comme tout artiste digne de ce nom, un parmi les autres et irréductible aux autres. Chacun d'entre eux a sa propre expression, son propre vocabulaire, ses propres sources. Et il faut un rien d'imagination et un peu délirer pour sortir enfin la route de simples considérations marchandes où certains ont trouvé avantageux et le confiner. 8. Dans le petit appartement maternel, Bérezné mélancolissait d'une réclusion volontaire. Il voulait ne pas sortir, ne voir personne, ne pas répondre au téléphone. Le jour, dans la pénombre, il s'efforçait de déchiffrer quelques textes étrangers dont il ignorait la langue, et le soir, sous la lampe électrique de la lampe à salle à manger, il écoutait en silence voler les mouches. Il s'efforçait là de penser quelques blessures psychiques profondes, certaines qu'il s'était faites à lui-même. Parmi elles, la trace dans sa mémoire des dessins au calame, maculés d'encre noire, désordonnés et perdus. Fuyant l'asile, il avait tendu un piège au texte, au langage peut-être, au savoir sûrement, qui s'était refermé sur lui. Il pensait ramener dans ses filets quelque chose de solide. Il n'avait remonté qu'une ombre infiniment anonyme, vaguement insensée, passablement douloureuse, dont il ne savait que faire, qui s'échappait dans lui sans cesse par tous les bouts, dont il désespérait d'en voir jamais la fin. Pourtant, à la faveur d'un grand remue-ménage, Bérezné connut un regain d'activité. Dessins et écrits se multiplièrent alors sur les feuilles volantes et dans les cahiers des commis. De curieux bonshommes faits de rouges et d'engrenages, des chevaux de muscles s'ébattaient librement en des attitudes grotesques et gratuites dans les marges d'un singulier projet de critique littéraire, recensé les infinitifs de tous les livres de Jules Verne. La portée et le sens de ce travail n'étaient pas bien clairs dans sa tête. S'agissait-il de cerner par la méthode de l'accumulation la signification profonde de l'infinitif? Ou bien plutôt, convenait-il de voir là une tentative de définir l'essence propre des voyages extraordinaires, l'expression d'une imagination sans sujet qui anticipe le réel? Ou encore, était-ce les symptômes du terrorisme intellectuel qui sévissait alors de façon virulente et faisait que quelques-uns comptaient religieusement les virgules d'un livre à la mode sans rien comprendre à son propos? Bérezné travaillait lentement, douloureusement. Chaque trait ou chaque mot était arraché à un espace intérieur inerte et vide. Il avait englouti une bonne partie des voyages, 20 000 lieues sous les mers, le tour du monde en 80 jours, de la Terre à la Lune, et quelques autres dont un capitaine de 15 ans, quand il savoua l'inanité et la vanité de ses efforts. Ces années voyaient l'essor de la linguistique, et il ne faisait pas le poids face à des gens de science et pris de recherche. Il souffrait d'ignorance et d'inculture. Quand il porta enfin un tel diagnostic sur son mal, il fut étonné au-delà de toute expression, surpris plus qu'à son tour, resta le cul sur sa chaise, saisi de stupeur, les bras lui en tombant. Nawak, nawak. Et lorsqu'il s'en releva, ce fut pour reprendre le chemin de l'université. Comme une vieille carcasse qu'on pousse loin du rivage, il avait mobilisé toutes les forces d'oubli dont il était capable pour tenter de remettre à flot son corps et son esprit. Personne plus que lui n'était rétif au brouhaha des salles de classe, à l'autorité des professeurs, à l'angoisse des examens et aux machines à café bon marché. Pourtant, il quémanda dans une grande université de la capitale le droit de venir librement y étudier. Cela lui fut accordé et lui permit en toute quiétude de ne rien devoir apprendre. Il n'apprit rien pendant 10 ans et vécut comme une bête. Il faut avouer que le développement ultérieur des aventures intellectuelles et artistiques de Bérezné n'ont à partir de ce moment plus grand-chose à voir avec les vraies conversations qui se tinrent entre son ami et lui quand il avait 20 ans à Lausanne. Sous les allures d'un client salon, il avait succombé stupidement au terrorisme intellectuel qu'on évoquait tout au début de ce menace. Il n'avait plus le recul nécessaire pour reprendre en main son destin. Ce ne sera plus qu'une sinistre succession d'approximations, d'errements et de fuites, de ratages en tout genre, qui ne lui font guère honneur. On a traité l'art brut comme un domaine réservé. On ne s'est donc pas gêné pour le piller et se moquer du destin des artistes dont on acquérait les œuvres pour une bouchée de pain et de beaux discours. Cela s'est fait dans le même esprit de lucre intellectuel que celui qui a conduit au pillage des richesses de l'Afrique. L'art brut, à cet égard, est un continent abandonné, sinistré, volé, et n'a jamais cessé de l'être, tout musée d'art brut qu'il y a. Tant que les œuvres se trouveraient dans les hôpitaux, gérées par les médecins qui avaient constitué leur collection, on pouvait espérer que les patients en tireraient quelques bénéfices. Mais une fois au musée, le musée ne se souciait plus de leurs personnes et les laissait à leur solitude et à leur feu. Lui-même ne manquait pas de faire remarquer combien il était décevant et parfaitement inutile de rencontrer ces artistes dont il trouvait pourtant le travail admirable. Il semble qu'il n'ait envisagé les choses qu'au seul point de vue de l'art. Pourquoi pas? Mais alors que les fous quittent de plus en plus facilement l'hôpital, ne faut-il pas que les œuvres emblématiques de cet état, de ce statut du moins, puissent quitter aussi le musée de Lausanne et soient visibles ailleurs parmi d'autres ensembles? Reprenons la question. Pourquoi le terrorisme intellectuel? Comment tant d'aveuglement, de cécité, de renoncement à soi et à penser? Ce peintre dont j'aurais voté la mort, est-ce moi? Pouvais-je tenir les circonstances et le hasard responsables de mes défaites? En cédant au terrorisme intellectuel, il se vouait à l'obscurantisme. Cherchait-il simplement le sommeil, ou bien aspirait-il à un doux ou douloureux suicide de sa pensée? Face au pouvoir, le terrorisme est la réponse de ceux qui le contestent aveuglément. Et dans le monde intellectuel, le terrorisme apparaît comme l'expression jalouse d'une pensée qui veut convaincre à tout prix, séduire et entraîner derrière elle, souvent contre le pouvoir en place. Il lui fallut, pour y échapper après une longue parenthèse, on pourrait dire une autre schizothèse, et revenir avec cela par quoi il avait commencé, qui croisait le chemin de beaucoup d'autres, en dénouer l'imbroglio idéologique et affectif. 9. Lorsqu'il s'empare à 20 ans du presque méchant bouquin « Expression de la folie », Bérezné ne renonce pas pour autant à la peinture qu'il aime et qu'il admire, celle que l'on voit dans les musées. Il croit simplement qu'en deçà de cette peinture se trouve une forme d'expression plus proche des ressorts de la création et que chacun des travaux reproduits dans ce livre exprime une part identifiable, reconnaissable de la machine complexe de l'art, laquelle, en ses principes, se résume précisément dans les formes qu'ont su créer, réaliser ces fous célèbres. Il ne voit pas bien que ce livre mêle deux propos, celui du médecin psychiatre et celui de l'esthète, qu'il en résulte un ouvrage terriblement technique qui prétend mettre à nu les pulsions et les divers mouvements de l'âme qui président à la création, et même pas les mettre à nu, car elles le sont déjà dans les travaux des fous, à l'état le plus pur qu'on puisse imaginer, qu'il suffit d'observer et de décrire. Il ne comprend pas que cette nosologie de la création ne tient pas lieu, que c'est le discours d'un qui sommeille, rêve et se croit éveillé, le discours de l'esthète bardé des convictions du bon docteur, le discours de la clinique quand elle oublie la subjectivité du clinicien. Il ne se rend pas compte que c'est un mauvais aperçu de l'art des fous, mais bien dit, mal vu, bien dit. Comment un tel discours a-t-il pu le séduire, après tant d'autres intellectuels et artistes? A-t-il cru que ce livre lui apprenait quelque chose sur les mécanismes de l'esprit et le fonctionnement de la pensée? A-t-il pensé qu'il donne là une bonne description des processus de la création? Ce ne sont que les balbutiements d'un qui pense et pense à en tirer des conséquences. Depuis Prinzhorn, on n'a pas avancé d'un pouce dans cette voie, et toutes les prétendues études sur l'art et les fous ressassent infiniment le même cliché. Ce que disent les fous de l'art est plus facilement lisible dans ces manifestations culturelles. Sur le principe, on n'a pas nécessairement tort. Un dysfonctionnement permet souvent de mieux comprendre un bon fonctionnement. Mais outre que le normal est plus que flou en matière de psychisme, cela est bien plus vrai encore dans le domaine de l'art. Ainsi donc, lorsqu'il s'engage résolument dans cette voie et oublie le chemin des musées, il vise simplement à trouver en lui-même un lieu où ne se feront plus entendre les bruits parasites, le savoir et le métier, qui selon lui altèrent ou brouillent le son unique de l'art. Il ne savait pas qu'en croyant ainsi aller plus profondément à lui-même, il tomberait, les circonstances aidant, dans un puits d'ignorance et de confusion, entraînant dans sa chute le lecteur tout au long des trois chapitres brouillons qui viennent après ce neuvième. À l'heure, un modèle dans la vitrine de l'université, pour piéger le savoir. Ce n'est pas un travail, c'est simplement magie. Il suffit d'être là où il faut, et l'on se remplit d'un savoir efficace et utile. Il suffit de manger à la table des Goncourt, et au dessert, on vous offre le prix, simplement. Passé les événements de 68, et passé son premier séjour à l'asile, il se retrouvait livré à lui-même, mais tiraillé par deux mouvements contraires qui avaient pour nom université et pour contenu savoir, ne pas se voir. D'un côté, les études qu'il se devait de poursuivre par fidélité à sa famille et à ses amis. De l'autre, le non-savoir, qui lui paraissait le gage d'une expression authentique et personnelle, à l'image quelque peu manipulée et convenue de ces artistes bruts dans lesquels il lui semblait se reconnaître. Il avait passé l'âge où sa tombe tourtit dans le bec. Son grand gosier, aussi grand qu'il avait été ambitieux et continuait de l'être malgré tout, gardait du côté où ça parle le souvenir imprécis mais fatal de l'inutilité d'aller au-delà du bac. Opinion qu'il a amplement développée en 68 sous le titre « Asphyxiant culture ». On pouvait apprendre en dehors de l'université, et même mieux apprendre qu'en son sein, où tout était déjà mâché, pré-mâché, digéré. D'où l'impression paradoxale qu'il lui suffisait d'être là sur ses bancs et d'ouvrir grande la bouche. Le savoir allait lui tomber dans l'estomac sans effort, aussi soudainement, raidement et directement qu'une gibouille d'avril. La seule chose qui résistait encore, mais pour peu de temps, à ce fatal préjugé, était le dessin dont il continuait à prendre le plus grand soin. Il avait pris l'habitude de commenter ses cours avec des dessins. Pour commentaire, le dessin du tableau noir avec ses écritures, pour agrément, des arbres, des armures, des ramures. Il écoutait sans rien comprendre, il n'y avait d'ailleurs pas grand-chose à comprendre. Un cours sur la forêt au Moyen-Âge, et rêvait de Jules Verne et de voyages à l'extraordinaire. Il n'était plus qu'une anecdote, une ponctuation dans la grande phrase universitaire, laquelle ignore superbement l'enseignement du dessin. Il n'était plus qu'un moins que rien, avide de science et de pouvoir, traître à ses convictions les plus intimes, sans aucun profit, sans même recevoir le prix de sa trahison. Il n'apprenait rien, désapprenait jusqu'à ne plus rien savoir du tout, sinon l'art de préparer à boire l'eau trouble de la Marne et celui de bien cuire les pommes de terre à chaque repas. Que son nom, ce savoir et cet art. L'art de donner raison à ses préjugés. Ignorant, il s'était rendu là où il est convenu d'apprendre, mais en se promettant de ne savoir pas plus. Juché sur le haut tabouret de l'enseignement supérieur, il voulait démontrer que l'université n'étancherait pas sa soif de savoir. En se montrant inattentif et paresseux, Il coulait des jours heureux autant qu'il se peut quand on ne sait plus rien et qu'on se croit dans son bon droit. Mais il était sensible au moindre souffle, à la moindre brise qui venait troubler son ciel uniment bleu et vide. Il suffisait qu'apparussent quelques nuages blancs, ou même seulement quelques moutonnements effilochés dans les cieux de son esprit, et il s'assombrissait, il s'enfermait derrière les plus sombres pensées. Pour ne pas ressortir, avant qu'un soleil sans concurrence brillât de nouveau, le soleil de ses convictions et de sa mauvaise foi, de sa bonne conscience. L'art d'accommoder les pommes de terre à l'eau d'un fleuve lui avait proprement fait oublier ses conversations lausannoises, l'art brut et ses audaces. Pourtant, il essayait de se mettre dans la peau de l'homme du commun et faisait du même coup les choses les plus saugrenues. Il dessinait avec l'application des vignettes qui se voulaient drôles et réalistes sans bien savoir qu'il dessinait. Mais il conduisait sa vie comme autrefois ses dessins, se regardant bouger, marcher et respirer, jouissant de ses écarts et de son étrange comportement comme autrefois il se régalait d'entre-noir. Et même il imaginait des spectateurs au théâtre de sa vie. C'est ainsi qu'il quitta de fortes positions pour se retrancher derrière les plus vils et les plus médiocres. Ce fut d'abord le tour de la bonne littérature. En pénétrant dans la cour de la maison derrière celle de ses amis, il voulait seulement les faire sourire de ses activités de chiffonnier, les justifier de l'avoir la veille quelque peu éconduit. Dans sa veste marron pleine de poches et de son pantalon bien trop vaste pour lui, il s'amusait de jouer des cheminées. Il imaginait ses amis l'admirant aux fenêtres en secret, lui au milieu d'un amas de détritus et eux le gratifiant d'un sou pour ce spectacle réjouissant. Il obtint comme bénéfice de cette comédie de sauver des vers et de la pourriture une dizaine de vieux. C'était des romans de gare et de midinette qui dataient des années 40 et 50 qu'il se mit en tête de lire avec attention parce que le seul hasard le lui avait produit. Et il prétendait apprendre à bien écrire à l'aide de cette minable littérature. Il frémit en lisant La Mande de Lutanoz, édition Talandier. Il pleura en dévorant Plus près de toi, édition de Tipper, et s'indigna en lisant Le Carnet Labeur, édition de Tipper. Sur son lit une bonne partie de la journée, et incapable de réussir ses études, il se décultivait au contraire avec assiduité. Il oubliait ses classiques, et même qu'il écoutait exister des auteurs comme Kafka et Dostoïevski, enfin ces grands auteurs qui avaient émerveillé sa jeunesse. Il finissait avec passion de purger sa mémoire des derniers souvenirs qui avaient compté dans la formation de son intelligence. L'un des plus tenaces était, dans Le Joueur de Dostoïevski, l'apparition au casino de la grand-mère pour faire la force de tessir qu'il en était d'habitude comme aveuglé. Cette cécité avait permis longtemps qu'il échappa à la purge le sentiment littéraire aigu attaché à ce grand moment de lecture. Pour l'heure, il était tombé bien bas et s'enchantait d'écrire sur son agenda le quotidien de ses activités. Cela de la manière la plus triviale qui soit, sans le moindre intérêt. Perdant le goût de la bonne littérature, il perdit aussi celui des bons dessins. Je n'ose décrire ici les absurdités graphiques qu'il commit avec la plus grande insouciance. À peine si l'on peut citer un manuel illustré sur la manière de faire cuire correctement une casserole de pommes de terre sur un poêle à bois. Le reste de sa production, mieux vaut la terre. Désapprendre, c'était devenu malgré lui tout un programme. Il aurait dû désapprendre de parler à ses condisciples, à ses semblables, à ses frères. Il aurait dû pour cela accorder plus d'importance à la marche, lui qui marchait de longues heures le long des berges du fleuve. Il n'accompagnait plus son reflet. Il n'avait pas de miroir dans la maison qu'il occupait. Il ne savait plus donc à quoi il ressemblait. Une maison jaune au milieu de l'île, exactement. Si près de l'île, si près du tennis qu'on entendait dans la journée le bruit des balles qui s'échangeaient. Il aurait dû marcher jusqu'au marché pour ramener à la maison un sac de pommes de terre pour la semaine. Seul dans son lit, dans sa maison isolée au milieu de l'île, entouré d'autres pavillons, entouré d'eau, il aurait dû penser « je ne suis nulle part », obsédé par mes regrets, par ses regrets, ses rancœurs, ses frustrations. Obsédé par ses regrets, ses peurs, ses frustrations. Lui qui ne savait plus que ressasser si c'était à refaire. Il aurait dû en rire, lui qui riait beaucoup et seul, tandis qu'il vaquait des 6 heures du matin par tous les temps à ses occupations domestiques, à 2 stations de métro de Paris, dans son enclave de la France profonde, pire, de la France du siècle dernier, il coupait chaque matin une pleine brassée de bûchettes pour allumer son poêle, lui qui ne savait plus qui il était, sinon celui qui aurait dû aller 2 fois par semaine à l'université, demeurer dans la maison jaune, près de celle de ses amis, près du pont, tourner le dos à ceux de l'autre chemin, dire bonjour monsieur, bonjour madame, à tous ceux qu'il rencontrait un peu confus. Lui qui, une fois par semaine, aurait dû se rendre à un déjeuner littéraire, aussi avec une revue d'extrême gauche, dans ses habits de chiffonnier, écoutait les échos du Collège de France et de la Rigoule, coiffé d'un bonnet d'âme. Oublions. En venir au plus vite à nos oignons, l'art brut, quel art, en finir avec ces questions, mais décrire, raconter, affirmer,
terroriser le lecteur une bonne fois pour toutes, laisser le cul sur sa chaise, ligoté, abasourdi, immobile, impuissant, apathique, prêt à tout avaler en fait de nourriture spirituelle. En état de choc, discrètement confus, amnésique sans en mesurer l'étendue. Parpenteur, un château, lui qui aurait dû ne plus rien savoir que tenir et tailler un crayon, faire des plaintes et des délits au stylo à ligne dans une calligraphie d'école primaire, avec application et soin excessifs pour croquer les berges et les légender de ce qu'il croyait entendre dire, noter aide, entendu dire ou éditer. Lui qui ne comprenait plus rien, qui ne savait plus que marcher, arpenter, mesurer. Sans projet, il aurait dû couler des jours heureux sans mémoire, envahi par les tâches quotidiennes harassantes, parlant encore, mais tout seul à lui-même, pour énoncer à voix haute ce qu'il faisait. Descendre 4 à 4 les marches de l'escalier, se précipiter dehors, passer les marches du perron, saisir la hachette, en éprouver le tranchant d'un léger coup sur le genou, très douloureux le genou, Jacques le voisin, c'est un maître, celui-ci. Nous en venir le plus vite possible aux faits qui nous concernent. Bérezné fait un dessin du marché. Il avait maintenant retrouvé son nom, il écrivait dans sa tête, c'est marché à gros trous noirs. Restons objectifs. Décrivons, affirmons, laissons le lecteur le cul sur sa chaise, profondément enfoui dans son fauteuil au choix, endormi, un livre à terre, les poteaux goudronnés se consumant dans la cheminée, une odeur âcre, violente, étouffante, et des braises comme du charbon, de la suie partout, et une fumée épaisse. Par terre, des images, des paysages exotiques, découpés dans des catalogues d'agences touristiques. Vic qui aurait dû dormir, aurait dû savoir qu'il dormait, se demandait en dessinant le jour à marcher s'il ne rêvait pas. Il y a de quoi, armé d'une petite règle d'acier graduée, d'un centimètre, il arpentait la façade du marché. Il relevait au vu et su de tous, en public, les dimensions des façades, les intervalles entre deux ouvertures, entre les barreaux des grilles, la largeur des huisseries, celle des murs un jour où il put y pénétrer. Il aurait dû noter, ajouter, retrancher, déduire les dimensions exactes, intérieures, extérieures. Il aurait dû sourire de lui-même sans miroir, lui qui mesurait dans toutes ses étendues un marché. Entre qui et qui, il se sentait léger, aurait dû ne plus savoir dire Fernand, ni lui Fernand faire du nom, lui qui ne disait plus rien, ne savait plus rien, qui bondissait le long des berges, se disant qu'il avait un travail en cours, un projet démesuré, dessiné sans fin, un marché. Mais il lui fallait partir, on vendait la maison jaune, on lui demandait de quitter les lieux, il n'était pas du genre à vouloir s'incruster, il préparait déjà son déménagement, mais il ne pouvait plus sans fin dessiner son marché, il marchait moins de fait, avait des projets à plus long terme, il reproduisait inlassablement les mêmes dessins au moyen d'un papier carbone, dessins qui ne représentaient rien pour finalement n'en penser rien. Mais il regardait étonné, d'abord qu'ils fussent tous aussi semblables, se demandant s'il serait utile un jour, il voulait dire si quelqu'un un jour a l'occasion et le loisir de les admirer. Il n'osait pas les montrer à ses amis, il pensait peut-être qu'il les voyait sans qu'il lui allait montrer quelque chose d'un peu magique qu'il associait à la maison jaune. Il aurait dû ne plus savoir qui d'autre ou ça quand ça avait habité une maison jaune. Et au fur et à mesure que ça menuisait, que se réduisait à rien dans son esprit, la liste des bons auteurs, il se réjouissait de pouvoir à nouveau se réciter quelques noms des peintres contemporains, enfin de ceux qui avaient éclairé sa jeunesse. Sans toutefois pouvoir mettre des images sur ces noms, mais il ne s'en plaignait pas car il n'était pas peintre, il n'était qu'écrivant, dessinant, rêvant. Inutile de raconter en détail les détails de la vie de Bérezné, pour tout résumer en deux mots, il aurait dû finir sa chute et toucha le fond du puits dans une salle d'ergothérapie. Car comme disait l'autre, aujourd'hui, avec tous ces médicaments, ce n'est pas dans les hôpitaux psychiatriques qu'on peut raisonnablement trouver des créateurs. Ils sont enfermés dans leur camisole chimique, leur délire passé, leur créativité non réprimée, pour le plus grand bien des règlements intérieurs et de la bonne tenue des établissements. Il n'a pas entièrement tort. 25 gouttes d'aldopéridol, une vacherie comme une autre, trois fois par jour pendant des années, ne fait bien personne. Mais il ne tient pas compte des art-thérapies et autres fadaises de la création aérophys, sur le regard bienveillant et douteux d'animateurs, moniteurs, professeurs, générateurs, etc., rémunérés ou bénévoles. D'une façon générale, l'art, n'importe lequel, brut ou non, ne s'accommode guère de la soumission et du conformisme. Dépêchons-nous de sortir de ce bourbier et d'envisager les choses sous un jour plus favorable. Dépêchons-nous d'habiter quelque part. Il s'était cru au terme du voyage, au sommet de la remontée, là où il se devait d'aller. Il pensait ne plus jamais arriver, heureux et déçu, si loin pour si peu de choses, quelques bons hommes d'herbe folle sur un beau papier à grains. Ce voyage, il allait pourtant le refaire autrement, en écrivant et en peignant. Un pas en avant, deux en arrière, la démarche la plus prudente et la plus sûre pour enfin émerger. Il est de la nature des premières amours ce lien si fort qui nous empêche de jamais tout à fait renoncer, en dépit de l'évidence parfois au bien fondé de la cause qu'on a la première fois embrassée. Quand il s'en vint demeurer à la Joconde, ce fut comme une renaissance, et ce n'est pas qu'une vaine plaisanterie. Il avait rempli son contrat envers lui-même et semblait pouvoir enfin mener ses travaux comme bon lui semblait. Mais le maître des lieux, un despote bienveillant, l'avait comme seul souci de lui rappeler la tourboute de ses travaux sur lesquels il pouvait jeter un coup d'œil magistral et quelque peu condescendant. En tant qu'artiste qui avait connu son orgue de gloire officiel, ne le produisait plus, il vivait par procuration à travers Bérezet son très fort désir de se libérer des contraintes institutionnelles, dans lesquelles, en fondant une société de transport pour les musées et les galeries, il s'était plongé corps et âme. Bérezet en avait connu d'autres, plus terribles, des contraintes institutionnelles, et son despote croyait à tort qu'il n'avait toujours su ménager un espace créatif envers et contre tous. Fort de ce préjugé, notre héros put tout à la fois et tour à tour cultiver l'art brut et brutaliser l'art culturel, jusqu'à s'en donner le tournis. Ses travaux allaient en tous sens. Ce n'était qu'expérimentation de façon continue. Dès qu'il réussissait un peu quelque chose, il l'abandonnait pour une autre recherche. Il passa sans transition des figures de vie aux peintures sur fond noir. Il abandonna les monotypes de l'art industriel pour des aquarelles de grand format. Il chercha avec passion des procédures de composition qui laissaient une place au hasard pour les renier aussitôt en dessinant des portraits réalistes et volontaires. Il parcourut à grands pas et en toute hâte des recherches menées par quantité d'artistes depuis 50 ans, à peu près l'âge qu'il avait, pressé de rattraper son époque et de se trouver une place dans l'histoire de l'art. Mais il était un peu tard. Au moins avait-il cessé de vivre sous la terreur des démons qu'il avait autrefois entraînés dans cette brute aventure. Il ne marchait plus les yeux baissés, scrutant l'asphalte, montrant douleur. L'intelligence n'avait que peu à faire dans le nouveau cours que... Il ne marchait plus les yeux baissés, scrutant l'asphalte, montrant douleur. Il ne se demandait plus seulement pourquoi, mais aussi comment. Et sans renoncer à ses conduites d'échec, il voyait désormais dans chacun de ses travaux une partie où il fallait perdre pour que la peinture gagne. Cela fait bien une petite différence.